Une œuvre. Maurice Leblanc, 1864-1941. À l'occasion du Salon du Livre de Radio France et des 150 ans de sa naissance, Une vie, une œuvre vous entraîne aujourd'hui à la rencontre du grand Maurice Leblanc, cet écrivain normand qui admirait Maupassant et défia Conan Doyle en inventant le roi de France de la cambriole, Arsène Lupin. Alors préparez-vous à escalader les façades d'immeubles et les falaises de craie, à explorer des abbayes en ruines et les beaux quartiers, et à mener l'enquête à bicyclette sur le terrain labyrinthique de Maurice Lupin et Arsène Leblanc dans la compagnie de quelques diablesses de la Joconde et d'une mystérieuse femme aux yeux verts. Maurice Leblanc, un documentaire de François Connac et Ghislaine David.
La radiodiffusion française présente, dans une production de Léon Ruth à bureau fermé, le plus grand succès de l'année 1909, Arsène Lupin, de Francis de Croisset et Maurice Leblanc. Et nous voici revenus une fois de plus au théâtre de l'Athénée. Déjà il y a 7 ans, en 1902, nous y avions entendu le prince consort, puis il y a 3 ans, en 1906, Triple Pas. Le directeur, Abel Deval, cède à son tour au goût du jour, à la pièce policière dont vous avez eu déjà un échantillon avec Sherlock Holmes, retransmis il y a 2 ans du Théâtre Antoine. Mais sur la scène parisienne, du soir bureau, il ne pouvait être question d'un sombre drame. Aussi bien est-ce à l'auteur du Bonheur Mesdames au spirituel Francis de Croisset qu'on a demandé d'adapter les aventures du célèbre héros inventé par Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Il sera incarné par André Brulé, le jeune comédien qui vient d'être déjà, et avec quel succès, un autre bandit mondain, Raffles. Mais le spectacle va commencer. Oh zut, j'ai perdu le programme. Oh, ces retransmissions à travers le temps sont tellement accidentées. Je crois toutefois me souvenir que les comédiens que vous allez entendre ressemblent à s'y méprendre à Paul Cambeau, à Lucien Nat, à Jean Meyer et à Danny Robin, Micheline Boudet. Mais chut, voici les trois.
Alors ça, c'est les débuts d'Arsène Lupin.
André Brulé.
André Brulé, qui a le premier à interpréter Arsène Lupin au théâtre, à la fin d'octobre 1908.
Avec des yeux exorbités.
Parce que, aussitôt après la publication du volume Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, en juin 1907, il y a eu un succès considérable. Les premières traductions apparaissent dès cette année-là. Dès 1909, il est joué au cinéma en Amérique. Alors là, c'est émouvant parce que c'est les deux plus ancien manuscrit que j'ai retrouvé de Maurice Leblanc. Son père Émile était négociant en charbon. Sa maman se prénommait Blanche et elle est devenue Blanche Leblanc parce qu'elle a épousé un marchand de charbon. Ça ne s'invente pas. C'est... Bon, la maison de Rouen où il a vécu jeune. Des photos de gens qu'il a connus ou aimés, c'est Georges Sand, qui fut une de ses premières lectures d'enfant. Donc, beaucoup de photos des lieux qui l'ont marqué, et évidemment, vous en doutez bien, l'abbaye de Jumièges, puisque l'abbaye de Jumièges est un des lieux. Voilà la photo de la maison où il habitait, une photographie de l'époque. C'était cette maison-là. Maurice Leblanc commence à devenir un jeune bandit, sa première épouse.
Alors là, nous nous baladons entre Paris, les beaux quartiers, l'Italie.
La rue Clapeyron, où il a vécu, l'Italie et la Sicile, où il a fait son voyage de noces, qui l'a marqué durablement.
C'est le temple de ses gestes.
Oui, sûrement. Donc, Nice, qu'il a beaucoup fréquenté, parce que la famille de sa première épouse avait un somptueux appartement à Paris, une villa à Nice, et à Vaucotte, une très jolie villa sur la côte normande, de quoi passer les... Et ça, c'est la fille de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc et son chien à vos côtes.
Arborant toujours une belle paire de bacs.
Ah oui, ça...
Quand Maurice Leblanc est monté, entre guillemets, à Paris...
Florence Leblanc.
Pour faire, soi-disant, des études de droit, mais surtout pour commencer à écrire, il était subjugué par Flaubert, Maupassant, Zola, tous les écrivains de cette époque, c'est qu'il avait pour modèle, et il avait écrit déjà quelques romans qu'il avait fait publier. De grande qualité quand on les relit maintenant, quand vous lisez celui qui s'appelle Une femme, par exemple, c'est du Maupassant. Mais à l'époque, ça n'avait pas eu un succès immédiat parce que l'auteur était totalement inconnu. Il a fait aussi quelques livres de science-fiction. Il y a Les Trois Yeux, il y a le formidable événement que j'avais fait rééditer au moment où on a creusé le tunnel sous la Manche. Oui. Il a écrit des histoires un peu galantes.
Des histoires un peu lestes.
Oui, ça lui plaisait assez. Et Laffitte lui avait demandé à l'époque, quand il a écrit le personnage d'Arsène Lupin, d'écrire des livres qui soient pour tout public. Donc il devait avoir une envie rentrée d'écrire ces livres un peu lestes. Alors à ce moment-là, Pierre Laffitte lui a demandé de créer un personnage qui puisse rivaliser avec le Sherlock Holmes de Conan Doyle, qui faisait à l'époque un tabac en Angleterre. Alors, ne pouvant pas refaire un détective, il a fait le voleur. Il a pris son journal, il a vu un certain monsieur Arsène Lopin qui avait fait je ne sais plus quoi, qui était conseiller municipal de Paris. Il a changé Lopin en Lupin pour ne pas avoir d'ennui avec le monsieur. Et il a écrit la première nouvelle qui s'appelle « L'arrestation d'Arsène Lupin », qui se passe sur un paquebot qui part pour les États-Unis. Et c'est très extraordinaire parce que le personnage, il est déjà pratiquement entier. Et puis, ça a eu, c'est paru dans Je sais tout, qui était la revue que publiait Pierre Laffitte. Ça a eu un succès immédiat. Les lecteurs en ont redemandé, redemandé. Pierre Laffitte a pris contact avec Maurice Leblanc en lui disant « Je voudrais que tu réécrives la suite ». Mon grand-père lui a répondu « Je ne peux pas, il n'y a pas de suite, il est en prison ». Et Laffitte lui a dit « Fais-le évader ». Et ça a été l'évasion d'Arsène Lupin. Et toutes ces nouvelles ont été publiées 3 ans après sous le titre « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur ». Et le titre de Gentleman Cambrioleur décrit parfaitement bien le personnage. En même temps le voleur et en même temps l'homme du monde.
Et si on essayait mon passe ?
Il est entré dans ma vie véritablement par un coup de force formidable. Parce que je crois avoir commencé de le lire, j'avais 10-12 ans à peu près.
Didier Blonde.
Dans l'édition du Livre de Poche qui republiait la plupart de ses aventures au fur et à mesure. Et un jour, en lisant Le Bouchon de Cristal, je me souviens très 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 bien de ce moment-là, je tombe sur un passage où il est dit qu'Arsène Lupin a un domicile, enfin c'est à peine un domicile, une sorte de garde-meuble, 95 rue Charles Laffitte. Or, moi j'habitais à quelques numéros, quelques dizaines de mètres de là. Ce qui fait que j'ai été saisi d'une sorte de vertige. Est-ce que c'est moi qui basculais tout à coup dans un univers de fiction, celui d'Arsène Lupin, ou est-ce que c'est la fiction, Arsène Lupin, qui était authentifié, estampillé comme étant réel ? Là, juste sur ce numéro, là, c'est tout à coup vraiment, j'avais l'impression qu'en poussant cette porte, cette maison à côté, je basculais dans un univers imaginaire.
Nous y allons. Je vous invite à me suivre dans la demeure de Maurice Leblanc, qui est devenue celle d'Arsène Lupin. Ici, là, sur la gauche, eh bien, on peut voir un certain nombre de publications, par exemple les éditions Laffitte, hein, avec les romans d'aventure et d'action, voilà, les trois crimes d'Arsène Lupin, les confidences d'Arsène Lupin, La pitié, Arsène Lupin contre Sherlock Holmes.
Pierre-Antoine Dumarquet.
La comtesse de Cagliostro également, qui est ici, et puis certains ouvrages qui ont été publiés dans les années 30.
Ah oui, l'agence Barnett qui donnera naissance au film des années 30 avec Jules Berry. Et Suzy Prime.
Et puis le Triangle d'or avec la victoire d'Arsène Lupin. Enfin, on retrouve un certain nombre de personnages et on retrouve en particulier la figuration d'Arsène Lupin par le dessinateur Léo Fontan. Et Léo Fontan, en fait, s'est inspiré de l'acteur André Brulé, parce que Maurice Leblanc ne décrit jamais Arsène Lupin tel qu'il est aujourd'hui. On a tous dans notre imaginaire collectif le personnage qui existait avec les dessins de Léo Fontan, mais qui a été ensuite popularisé par Georges Descrières dans la fameuse série télévisée, avec ce personnage, avec ce monocle, ce chapeau de forme, etc. Mais en fait, à l'origine de cette représentation, eh bien, c'est l'acteur André Brulé qui avait été le premier à jouer Arsène Lupin au théâtre et qui était le dandy du théâtre et donc qui avait servi à Fontan comme modèle pour ses dessins, des couvertures, des éditions de Pierre Laffitte.
Qui est plus comédien, connaît mieux l'art de la scène qu'Arsène Lupin. Toute sa vie est inscrite dans ce prénom déjà, esthète et comédien par excellence, et puis Lupin... parce que il aime aussi cultiver le lupin. À un moment, il se retire dans sa propriété. Et devenir une fleur, c'est quand même un beau destin.
Alors ici, vous arrivez dans la pièce, je dirais peut-être principale de la maison.
C'est l'antre.
On voit là-bas effectivement sa cape, son chapeau de forme.
Et les tableaux.
On peut distinguer un certain nombre de tableaux, et en particulier la Joconde. La véritable Joconde est ici à Étretat, puisque tout le monde sait que la fosse est au Louvre, à Paris. À la suite du vol rocambolesque du tableau de Léonard de Vinci, et bien heureusement, nous avons pu la récupérer, la conserver ici. Vous la voyez, elle est devant vous.
La magie, c'est très très réel, hein. C'est pas du mystère, hein. Au début, il y avait du mystère, mais en fait, tout s'explique chez Arsène Lupin.
En bonne compagnie, avec Rubens, Rembrandt, Velasquez aussi.
C'est une toute petite partie de la collection d'Arsène, dont le reliquat se trouve aujourd'hui encore dans l'aiguille creuse d'Étretat, bien sûr.
Voilà. Quelques bijoux aussi.
Ah, c'est le collier de la reine, bien évidemment.
Le collier de la reine, c'est aussi une nouvelle. C'est la toute première histoire d'Arsène Lupin, qui ne s'appelle pas encore Arsène Lupin, mais Raoul d'Andrézy. Formidable histoire où il commet son premier vol à l'âge de 6 ou 7 ans par amour pour sa mère. Mais c'est vrai que il répond de façon formidable à l'appel de la veuve et de l'orphelin. Comme ça, il est toujours là pour aider les pauvres jeunes filles. Il est une sorte de fantôme qui s'incarne comme ça quand on a besoin de lui, quand il veut être là. Il y a ces figures maternelles de femmes, il y a sa mère donc, qui est importante, qui va disparaître. Il y a aussi une femme, alors là, qui n'est pas assez sous le signe vraiment de la modernité, mais qui est Victoire, cette presque mère qui l'a éduqué, adopté, qui le suit, qui le protège.
Mère servante.
Voilà. Et là, c'est la Normandie profonde, hein. Si on est bien dans la belle époque et des salons et presque chez Proust, on est aussi souvent dans la Normandie profonde.
Maurice Leblanc a fait de longs séjours ici, à Gœurs, dans le château. Et c'est ici, dans cette salle où nous nous trouvons, qui s'appelait autrefois l'Orangerie. C'est ici qu'il a écrit la plupart de ses romans. Et on était toujours un peu admiratifs et surpris quand nous venions dans l'Orangerie, parce qu'il restait sur ce mur un morceau de carte des plans de la région qui avait été dessiné par Maurice Leblanc, justement des tracés sur les différentes histoires qu'il a racontées.
Il a filé. Par où ?
Par là.
Patrick Gueule, vous allez nous entraîner sur les traces d'Arsène Lupin. Vers quel manoir, quelle abbaye, quel château ?
À vrai dire, nous avons l'embarras du choix, parce que ce qu'on appelle site lupinien, autrement dit lieu cité par Maurice Leblanc et fréquenté par Arsène Lupin, j'en ai recensé 35 dans le seul département de la Seine-Maritime. Il y a l'abbaye de Montivilliers, il y a le château de Fréfossé. Ce château de Fréfossé, il est au Tilleul, juste à l'entrée d'Étretat. C'est lui qui a donné le nom à la tour en question, puisque la tour en question en dépendait. Il y a par ici Varengeville-sur-Mer, le manoir d'Angot. Il y a le château d'Embrumésy, qui se situe en réalité dans une commune qui s'appelle Embrumesnil. Maurice Leblanc modifiait souvent un petit peu les noms et les lieux. Et de ce château d'Embrumésy, on aperçoit la mer, donc ça confirme bien qu'il est juste à côté de Varengeville. À vrai dire, le pays de Caux est truffé d'endroits comme ça, très attachants, que Maurice Leblanc a découvert presque toujours à bicyclette. Donc c'était un cycliste invétéré qui était capable de faire Paris-Vaucot, c'est-à-dire quasiment Paris-Étretat, dans la journée, de grimper plusieurs fois par semaine la grande côte qui est à la sortie de Rouen, qu'on appelle la côte de Canteleu, pour aller se promener en vallée de Seine. Donc de là, toutes les abbayes, presque jusqu'au Havre. Il avait un coup de jarret extraordinaire, une forme physique, un véritable athlète du vélo.
Il a fait un tour de Bretagne, par exemple, en 1898, en automobile.
Jacques de Roy.
À l'époque, vu ce qu'étaient les automobiles, c'était pas toujours facile. C'est aussi lui qui, le premier, a fait entrer la bicyclette dans la littérature. C'est lui aussi qui, le premier, a fait entrer l'auto dans la littérature. Bien avant Mirbeau, qu'on cite souvent comme le premier, avec sa 628-8. Et pour lui, l'automobile était justement un excellent moyen de dénouer une situation dramatique. Et il est aussi un des premiers à avoir vu l'intérêt que l'automobile présente dans la transformation qu'elle occasionne dans notre vision du monde. On pourrait trouver chez lui, dans son écriture et dans ses goûts, quelque chose de la peinture du début du XXe siècle, c'est-à-dire d'une peinture... Bon, on songe à ce personnage descendant un escalier du champ ou des choses comme ça. Une peinture dans laquelle la vitesse joue un rôle important. Marinetti disait qu'une voiture lancée à toute vitesse est plus belle que la victoire de Samothrace.
Je crois qu'elles ont dit la vérité. Le coffret n'était pas dans la maison. J'ai peut-être une piste.
Mm-hmm. Le consulat.
De Paul Daly. Et d'abord, le consul. Il est en ce moment à un cocktail chez ma maîtresse.
Tiens, laquelle ?
Mais l'autre. Chauffeur, place des États-Unis, chez Madame de Pellac.
Non, Marcel Achard n'est pas un champion cycliste. C'est un jeune auteur d'avant-garde.
Où il est ?
Là, je vous crève les yeux.
Et celui-là, qui c'est ?
Didier Blonde, Arsène Lupin et... pour manier le paradoxe, à la fois dans l'unité et dans la diversité. C'est Arsène Lupin et c'est un voleur de visage. C'est un homme insaisissable. On ne connaît pas son véritable visage.
On ne connaît pas son véritable visage.
Il croule sous les identités, sous les pseudonymes.
Voilà. En cela, il appartient bien à cette tradition des héros de romans populaires. Avant lui, il y avait Rocambole aussi, qui a des dizaines comme ça d'identité. Il y aura presque son contemporain Fantomas et bien d'autres, hein, Chéri Bibi, chez Gaston Leroux, il y en a beaucoup. Arsène Lupin porte ce thème de la multiplicité des identités à la perfection et à un aspect vertigineux. On peut se dire que le voleur de visage, le voleur de nom, comme il est, on vole parce qu'il lui manque quelque chose. Hein. On vole ce qu'on n'a pas. Et il est condamné à une sorte de fuite en avant perpétuelle, de recréation permanente. Il est obligé de se trouver sans cesse de nouvelles identités, de les laisser. De temps en temps, il dit, voilà, je vais être obligé de laisser mon nom de, je ne sais plus lequel c'est à ce moment-là, Raoul de Limésie peut-être. C'est dommage, je l'aimais bien. Autant de changements d'identité, autant de petites morts. Et lui-même le dit à un moment, face à un miroir, au fond. Il dit, à force de devenir l'un et l'autre, je finis par ne plus me reconnaître. Hein. Qui suis-je ? Qui suis-je ?
Mon cher collègue, vous allez enfin connaître le vrai visage de Lupin.
Freud serait Lupin ?
Oui. Regardez.
Elle est vraie.
Vous auriez besoin de vous faire psychanalyser, commissaire.
Mais alors, vous êtes Arsène Lupin ? Mais est-ce que maman le sait ?
Parce qu'on peut se masquer, changer d'identité de plusieurs façons. D'abord, il y a l'apparence physique, bien sûr. Et il a recours très rapidement, dans quelques paragraphes uniquement, sur des procédés, on va dire, quoi, de chirurgie esthétique, chirurgie plastique, comme c'était, ça commençait à se répandre à l'époque, tous ces procédés chimiques. Mais ça, en fait, c'est pas Lupin. Lupin, il a le pouvoir de se métamorphoser sans grimage, même uniquement par la puissance de sa volonté, par aussi la parole, hein, qui agit sur
la puissance de la voix. C'est un peu comme à la radio. C'est un homme sans visage. On ne le connaît que par sa voix.
Voilà. Je pense que c'est le véritable homme invisible. Alors, il peut se transformer et être vraiment quasiment sous nos yeux. L'inspecteur Ganimard en fait les frais un moment, dans cette histoire quand même assez hallucinante qui est l'évasion d'Arsène Lupin, quand Arsène Lupin se fait passer pour Désiré Baudru. Il a uniquement utilisé ce qu'il appelle la diète métamorphosante, c'est-à-dire en jeûnant à l'intérieur de sa prison, il s'est métamorphosé, il a métamorphosé ses traits, et Ganimard, face à lui, déclare: cet homme n'est pas Arsène Lupin. Il l'a donc sous les yeux, il ne le voit pas.
Alors maintenant, Il suffit que vous apparaissiez quelque part pour que la police se couvre de ridicule.
Mais j'ai 30 ans de service, monsieur le préfet.
Je sais, Gallimard, je sais. Vous êtes le doyen des imbéciles. Y a pas de quoi. J'attends votre démission.
Oh.
Tenez, je vous laisse une dernière chance. La dernière, vous m'entendez? Vous avez 8 jours pour retrouver Arsène Lupin.
Mais il est mort.
Débrouillez-vous, je veux savoir.
C'est un voleur.
Bah oui, c'est un voleur. Mais c'est un voleur. Et c'est une des raisons pour lesquelles le personnage n'a pas eu un succès énorme au départ aux États-Unis et en Angleterre, parce que le voleur avait le beau rôle et que ce n'était pas moral.
On a souvent prétendu que Maurice Blanc, ce qui est tout à fait faux, s'était inspiré de Marius Jacob.
Un célèbre anarchiste qui défriait la chronique.
Anarchiste. Qui a été condamné en mars 1905 et qui a fait des cambriolages. Il y a eu une légende qui s'est faite, qui est née dans les années 30, grâce à un commandant qui avait dirigé le pénitencier où était prisonnier Marius Jacob. Et c'est lui qui a écrit, c'est Marius Jacob qui a donné à Maurice Leblanc l'idée de son Arsène Lupin. Et là, cette information a été répétée dans tous les écrits sur Marius Jacob, sans vérification. En fait, non, Maurice Leblanc n'en a jamais parlé. Il en avait sûrement entendu parler, comme tout le monde à l'époque. Je sais tout, avait même publié une photo de la trousse de cambrioleur de Marius Jacob. Maurice Blanc avait déjà mis en scène, notamment dans la nouvelle Un gentleman, des gens qui présentaient très bien et que ça n'empêchait pas d'être des gens qui n'avaient pas la conscience tout à fait tranquille normalement.
Oui, parce que dans Un gentleman, je crois que c'est l'acquéreur d'une voiture qui s'empare de la voiture
sans payer. Sans payer, oui, et qui présentait très bien. À l'inverse, il y a un conte de Maurice Leblanc qui s'intitule « Vieille noblesse » et où le narrateur fait la connaissance de quelqu'un au casino de Néris-les-Bains, si ma mémoire est bonne, de quelqu'un qui lui semble tout à fait remarquable de prestance, de séduction, bref, gentleman type. Et le soir, dans une maison où il est invité, il s'aperçoit que ce personnage qu'il avait cru de la vieille noblesse est en réalité le maître d'hôtel dans la maison.
Il y a un monsieur qui n'est pas du tout content. Il ne veut pas qu'on se serve du nom d'Arsène Lupin.
Qu'est-ce que c'est que ce gagne petit qui essaye de s'approprier la marque? Si quelqu'un a le droit de signer Lupin, c'est bien toi. Il y a des lois en France, c'est toi l'héritier du nom.
Mais remarque que l'héritage de mon père, j'ai tout intérêt à ne pas le revendiquer. Il doit avoir 227 ans de prison.
Cette question d'identité, elle devient cruciale à la fin du 19e siècle.
Didier Blonde.
Notamment avec Alphonse Bertillon, l'identité judiciaire, toutes les mensurations.
Trop pénétrique.
Le procédé, voilà, qui est en principe infaillible, en principe, c'est la dactyloscopie, les empreintes digitales. Mais même Arsène Lupin, qui est quelqu'un qui va réussir à déjouer le fichier de l'identité judiciaire, arrive à s'échapper et à garder sa liberté totale. Parce qu'il le dit bien, un nom, c'est une vie. Hein. Il faut être libre. Lupin, c'est le nom de la liberté aussi. Échapper à tout, à toutes ces mensurations. Et lui, effectivement, il arrive à s'échapper. Alors, dans ces pseudonymes aussi, c'est la même façon que l'apparence physique. De temps en temps, on l'a sous les yeux et on ne le voit pas. Bien sûr, on peut essayer de reconnaître un nom à la Lupin. Mais parfois, c'est beaucoup plus crypté que cela. Il y a des anagrammes parfaites du nom. Et parmi ces noms, un qui est très, très courant, c'est Don Luis Perena.
Écoutez-moi bien, Sholmes. Je vais déposer ce collier dans le souterrain secret de mon château de Thibermesnil en Normandie. Je vous donne 4 jours pour découvrir l'entrée de ce souterrain et pour récupérer le collier. Si vous échouez, et vous échouerez, je ferai savoir à toute la presse que vous avez perdu contre moi une fois de plus. Et si je trouve, le collier sera à vous. Vous le rendrez à ce guignol et je le lui reprendrai. Dans 1 heure, je ferai déposer les clés de Thibermesnil à votre hôtel. À vous de jouer, l'Angleterre.
Compte sur moi, la France.
Il est très intelligent, mais sa méthode, c'est pas tellement d'abord la déduction, c'est pas Herlock Sholmes. Bon, il n'est pas là à collectionner les bouts de cigarette et la déduction. Avec lui, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Il a une intuition extraordinaire. Il est dans l'action aussi.
Et puis une intelligence sensitive. Il sent les choses.
Oui, une intuition formidable. Il a une grande culture, hein, il court-circuite tout. C'est pour ça que dans l'affrontement Sherlock Holmes, enfin Sherlock Holmes et Arsène Lupin, il sera toujours le plus fort. Voilà, il a le rire aussi, ce qu'il appelle lui-même le primso, hein, qui est une qualité vraiment, enfin un mot de l'époque, mais qui rend bien compte de cela. Une joie de vivre, un rire, voilà. Tout finit par des chansons en France.
Tu l'as dit, Bouffi. C'est dans pas mal de livres, ça. C'est une de ses expressions favorites.
Il lui arrive de connaître des moments très très difficiles. Il ne s'échappe pas de partout si facilement que ça. Vous vous souvenez peut-être ce passage dans 813 où il est enfermé dans une soupente où il croit qu'il va étouffer. Et il lui arrive souvent des malheurs pour Arsène Lupin. Je pense qu'il a le cuir assez solide quand même, vu tout ce qui lui est arrivé. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de faiblesses, peut-être parce qu'il a un cœur d'artichaut, il a aussi beaucoup de tendresse. Comme c'était le cas de Maurice Leblanc, Arsène Lupin est quelqu'un qui pleure facilement. Et on le voit parfois pleurer. Dans 813, c'est assez souvent le cas. Et Arsène Lupin est quelqu'un de vulnérable, mais c'est aussi, sans quoi ce ne serait pas un héros populaire, quelqu'un qui a des dons. Et alors, on connaît une très longue et très belle lettre de Maurice Leblanc à un adaptateur anglais, où Maurice Leblanc parle de son personnage et lui dit comment il le voit. Et il lui dit surtout, l'une des principales caractéristiques d'Arsène Lupin, c'est de jouer sur la psychologie des gens en faisant peur à ses prochaines victimes. Mais, écrit Maurice Leblanc, je ne perds pas de temps à expliquer comment les choses se passent. C'est-à-dire, si Arsène Lupin est victime d'une corde et a besoin d'un couteau pour se débarrasser, il ne perd pas le temps de nous faire savoir comment il a trouvé le couteau. Il l'a et puis voilà tout. Donc, c'est vrai que, si on voulait mettre dans la réalité les aventures d'Arsène Lupin, on aurait beaucoup de mal. Et donc, il y a quelque chose de peut-être pataphysicien chez Arsène Lupin. Ça, c'est pas impossible. Bon, le goût pour les cryptogrammes, par exemple, le goût pour les déguisements, pour la farce. Il y a une certaine ironie dans beaucoup d'aventures d'Arsène Lupin, bien sûr. Lorsque Maurice Leblanc le montre esquissant un pas de danse ou se frottant les mains, oh oui, il y a une certaine joie de vivre.
Un autre roman qui m'a vraiment passionné, voire terrifié, quand j'étais un peu plus jeune, c'était L'île aux 30 cercueils. Alors L'île aux 30 cercueils, c'est un roman effrayant, et à la fois effrayant et passionnant, qui est censé se passer dans une île qui se trouve en Bretagne, l'île de Sarek, mais que les recherches de l'association des Amis d'Arsène Lupin ont permis d'identifier avec l'île de Serc, donc qui est une des îles anglo-normandes qui se situe au large de l'île de Guernesey. Et on retrouve d'ailleurs deux initiales mystérieuses lorsque l'on lit le roman, les fameuses lettres V et H, Véronique d'Hergemont, héroïne du roman L'île aux 30 cercueils. Et puis, curieusement, donc, quand on arrive sur place, eh bien, on se retrouve en présence de ces deux lettres V et H à Guernesey. Alors on suit ces lettres V et H et on arrive tout simplement à Victor Hugo.
On est sur du multipiste.
Oui. Dans La demeure mystérieuse, par exemple, qui est un des livres que j'aime beaucoup, moi, il y a deux maisons identiques. Alors, allez savoir où... Et la comédienne qui est enlevée avec sa robe de diamant, on l'amène dans une maison et puis elle devait aller... Ben c'est très extraordinaire.
Vous en parlez comme d'un personnage réel.
Mais j'en parle comme d'un personnage réel parce que je suis tombée dans la marmite.
Dans les aventures d'Arsène Lupin, on trouve beaucoup de lieux qui dégage un certain mystère, qui nous donne l'impression de remonter très loin dans le passé. Ces lieux bizarres, les grottes par exemple, les entrées de choses un petit peu biscornues, par exemple pour le château de Tancarville, Maurice Leblanc, dans le roman Les Dents du Tigre, évoque ce qu'on peut voir au château de Tancarville, un puits ancien avec, comme ça se faisait, une ouverture horizontale. qui permettait éventuellement de s'échapper en cas de guerre, si le château avait été assiégé. Donc ce genre de choses, ça séduit les imaginations. De même, les souterrains qui sont évoqués dans Arsène Lupin en prison, au début de la nouvelle. Ces souterrains qui, dit-on, reliaient le château du Malaquis au manoir d'Agnès Sorel.
Jacques Desrois, expliquez-nous l'importance de ce fort.
Ce fort est très important parce que c'est lui qui va permettre à Beautrelet, dans l'Aiguille Creuse, de découvrir l'entrée du souterrain. Il demande à paysan qui était là avec ses moutons, comment s'appelle ce fort, et on lui dit c'est le fort de Fréfossé. Et alors évidemment, ça fait tilt tout de suite dans l'esprit de Beautrelet, qui avait découvert que le cryptogramme parlait des demoiselles de Fréfossé. Donc c'est après plusieurs pérégrinations, non seulement sur la côte du Pays de Caux, mais à travers la France, depuis le département de la Creuse, Beautrelet enfin est touché au but.
Mais peut-être on peut aller le chercher dans l'aiguille, hein, puisque l'aiguille est juste au pied en fait, de ce fort.
Non, on va y aller avec Patrick Gueule.
Vous irez tout à l'heure sur place.
Il s'agenouilla brusquement et se pencha. Deux lettres énormes, d'un pied chacune peut-être, apparaissaient, gravées en relief dans le granit du sol. Ces deux lettres, sculptées grossièrement mais nettement, et dont l'usure des siècles avait arrondi les angles et patiné la surface, ces deux lettres, c'était un D et un F. Un D et un F. Miracle bouleversant. Un D et un F. Précisément, deux lettres du document. Ah ! Beautrelet n'avait même pas besoin de le consulter pour évoquer ce groupe de lettres à la quatrième ligne, la ligne des mesures et des indications. Il les connaissait bien. Elles étaient inscrites à jamais au fond de ses prunelles, incrustées à jamais dans la substance même de son cerveau.
Alors si nous nous trouvons au pied de cette falaise, c'est parce que Étretat est au cœur de l'œuvre de Maurice Leblanc.
Totalement.
Sans Étretat, dit-il, écrit-il dans l'aiguille creuse, Arsène Lupin est incompréhensible. Comment l'entendez-vous ?
Parce que l'aiguille creuse, c'est l'aiguille d'Étretat, cette pointe de falaise isolée en mer, et qui, d'après Maurice Leblanc, est creuse. Bon, d'après moi, peut-être bien aussi. Et dans laquelle il aurait rangé ses trésors personnels, le butin de ses cambriolages, après que le trésor des rois de France, qui était avant lui, se soit trouvé petit à petit dilapidé par Louis XIV, Louis XV et même Louis XVI. Quand Arsène Lupin est arrivé, il ne restait pratiquement plus rien. Uniquement la dernière salle tout en haut de l'aiguille, c'est-à-dire l'ultime réserve financière de la France. Et je me demande si elle n'a pas été consommée depuis, au point où nous en sommes.
Vous connaissez sans doute le chemin qui mène à l'aiguille creuse.
En réalité, il y en a deux. Il y en a un qui est censé partir d'en haut, de la chambre des demoiselles, en posant les deux pieds sur les lettres D et F qui sont gravées dans le sol, et ensuite en suivant un certain nombre d'indications très précises qui figurent dans un document récupéré dans un ancien livre d'heures de Marie-Antoinette. Et puis il y a un deuxième accès, celui dont parle Georges Descrières dans la visite du Clos Lupin, qui n'est praticable qu'à marée basse et qui prend dans une grotte qui se trouve totalement remplie d'eau à marée haute. Et cette grotte, c'est le port sous-marin dans lequel Arsène Lupin gare son canot automobile submersible, qu'on appelle généralement le 7 de cœur. C'est ce petit sous-marin de poche, hein, finalement, qui lui permet, à la fin du roman L'aiguille creuse, de prendre la fuite, quand il est cerné par la police et même la marine nationale avec un torpilleur, de prendre la fuite vers le nord, vers un endroit qui s'appelle Port Lupin et qui est en réalité la valeuse de Biville-sur-Mer. Celle par laquelle Georges Cadoudal est remonté à l'époque où il complotait contre Napoléon.
Oh ben, l'aiguille creuse, c'est son chef-d'œuvre. Parce que elle est imaginée quand même que l'aiguille d'Étretat peut être creuse, c'est quand même extraordinaire et qu'elle puisse contenir les souvenirs des rois de France, les trésors des rois de France. Et c'est très curieux parce que moi je me souviens avoir vu au musée Carnavalet un tableau de Monet avec une petite étiquette en cuivre marquée l'aiguille creuse par Détretat, par Claude Monet. Ce n'est plus l'aiguille d'Étretat, c'est l'aiguille creuse. Alors, il a dans le livre aussi fait un petit clin d'œil amusant parce qu'il y a un château dans la Creuse qui s'appelle l'Aiguille. Donc, pour faire diversion et emmener ses ennemis vers un endroit où ils n'étaient pas censés aller, il s'est amusé à aller balader dans toute la France.
L'Aiguille Creuse n'existe pas. C'est une invention de journaliste.
Mais pas du tout. C'était une gâchette merveilleuse, tellement visible que jamais personne ne la soupçonnait.
Oui, mais je dois te l'avouer, très rustique, humide et dépourvu de confort.
Bon, d'accord, l'Aiguille Creuse a existé. Mais le parchemin, c'est une fable?
Ah, je demande bien pardon. Guillaume le Conquérant a été pour moi un précieux collaborateur.
En face de lui, presque au niveau de la falaise, en pleine mer, se dressait un roc énorme, haut de plus de 80 mètres. Obélisque colossal d'aplomb sur sa large base de granit que l'on apercevait au ras de l'eau et s'effilant ensuite jusqu'au sommet, ainsi que la dent gigantesque d'un monstre marin. Blanc comme la falaise, d'un blanc gris et sale, l'effroyable monolithe était strié de lignes horizontales marquées par du silex, et où l'on voyait le lent travail des siècles accumulant les unes sur les autres les couches de calcaire et les couches de galets. De place en place, une fissure, une anfractuosité, et tout de suite là, un peu de terre, de l'herbe, des feuilles. Et tout cela, puissant, solide, formidable, avec un air de chose indestructible contre quoi l'assaut furieux des vagues et des tempêtes ne pouvait prévaloir. Tout cela définitif, immanent, grandiose malgré la grandeur du rempart des falaises qui le dominait, immense malgré l'immensité de l'espace où cela s'érigeait. L'horizon s'empourprait de tous les feux du soleil disparu, et de longs nuages embrasés, immobiles dans le ciel, formaient des paysages magnifiques, des lagunes irréelles, des plaines en flammes, des forêts d'or, des lacs de sang, toute une fantasmagorie ardente et paisible. L'azur du ciel s'assombrit. Vénus rayonnait d'un éclat merveilleux, puis des étoiles s'allumèrent, timides encore. Là-bas, presque en haut de l'aiguille d'Étretat, en dessous de la pointe extrême autour de laquelle voltigeaient des mouettes, un peu de fumée qui suintait d'une crevasse ainsi que d'une cheminée invisible, un peu de fumée montait en lente spirale dans l'air calme du crépuscule.
Et c'est vrai que c'est une réussite extraordinaire, l'Aiguille Creuse.
Donc c'est la grande époque, 1909, 1910, l'Aiguille Creuse, 813, l'an... On touche au sommet de la production littéraire des aventures.
Ah oui, mais ça continuera pendant longtemps, mais avec un changement considérable dans la mentalité. Avec le Bouchon de cristal qui succède à 813, le gentleman cambrioleur, même s'il commet un cambriolage au début du livre, se montre du côté de la morale. Mais ce sont trois aventures extrêmement différentes. 813, c'est un très long roman, très confus, très politique aussi, puisqu'il évoque la figure de Guillaume II, mais à une époque où Guillaume II apparaissait en France comme quelqu'un de plutôt bien. Il y a eu une édition corrigée pendant la guerre, où il devient l'ennemi, évidemment. 813 a été écrit pour être un feuilleton dans le journal, alors que l'Aiguille Creuse a été écrit pour paraître dans Je sais tout. Et il y a une différence énorme. Dans Je sais tout, les épisodes sont plus longs. Je sais tout s'adresse à un public cultivé. Beaucoup des collaborateurs de Je sais tout étaient des académiciens, comme Paul Bourget et bien d'autres, comme Jules Claretti, préfacier des aventures d'Arsène Lupin. Bon, alors que lorsque Maurice Leblanc écrit 813 pour le journal, il faut vraiment une œuvre populaire. Avec le roman Le Bouchon de cristal, Maurice Leblanc inaugure une nouvelle époque dans sa création littéraire. Arsène Lupin, même s'il cambriole au début du roman, est un personnage qui est plutôt du côté de la veuve et de l'orphelin, quelqu'un dont la morale est en réalité parfaite. Et c'était un changement dans l'air du temps. Beaucoup des gens qui avaient été attirés par l'anarchie à la fin du 19e siècle étaient devenus très patriotes, en fait, et très cocardiers. Et à la veille de la guerre de 14, on voit beaucoup de choses qui vantent l'énergie, le courage. Donc Maurice Leblanc, pendant la guerre, va faire intervenir son Lupin dans des aventures extrêmement complexes, extrêmement noires. D'abord, le premier roman écrit pendant la guerre, L'éclat d'obus, n'est pas un roman sur Arsène Lupin. Ça n'est qu'après que Maurice Leblanc modifiera un petit peu pour y faire intervenir Lupin, ce qui permettait de vendre ça dans la série des aventures de Lupin. Mais L'éclat d'obus n'est pas une aventure d'Arsène Lupin.
Je crois que nous sommes voisins. Oui, j'habite le bloc 813. Vous aussi, n'est-ce pas?
C'est juste.
Oui, je vous aperçois presque chaque fois que je fais le trajet.
Ah oui?
Dites-moi, ce numéro que vous portez, ça veut dire quoi?
Fahrenheit 451.
Pourquoi ce nombre-là plutôt que 813 ou Fahrenheit n'importe lequel?
Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle les livres s'enflamment et se consument.
J'ai quelques éditions qui sont très rares parce que on trouve très peu chez les catalogues de bouquinistes. On trouve très peu d'exemplaires dédicacés par Maurice Leblanc. Voilà. Parce que Charles Imbert, oh là, dis donc, était le propriétaire du journal où L'éclat d'obus avait paru en feuilleton.
Roi des canons.
Et empereur des munitions. Parce que Charles Imbert avait mené dans son journal une campagne inlassablement répétée sous le titre « Des canons, des munitions pour la guerre ». Et Maurice Leblanc, avec beaucoup d'humour,
l'éclat
à Charles Imbert, roi des canons et empereur des munitions, j'offre ce modeste éclat d'obus en toute reconnaissance. Maurice Leblanc, juin 1916, c'est la date de sortie. Ah oui. Malheureusement.
Oui. Et... Le livre a vécu.
Oui, ben, souvent, parce que en réalité... Les aventures d'Arsène Lupin se lisaient et se relisaient, se prêtaient. Beaucoup de gens les lisaient. Il faut d'ailleurs faire une expérience toute simple. Chez vous, vous mettez l'aventure d'Arsène Lupin sur le coin du salon. Si quelqu'un commence, il le lit et puis il a envie de continuer jusqu'au bout.
Un nombre. Un nombre qui apparemment ne veut rien dire. Le nombre 27.
27.
Oui.
27. 23, 24, 25, 26.
27. Si je devais aller à cette vente, je sens que je m'intéresserais plutôt à cette terre cuite représentant Alfred de Musset. Objet ayant appartenu à Madame Sarah Bernard.
T'es devenu fou? Tu t'es mis à aimer Musset.
Et dans Le Triangle d'or, le véritable héros, c'est pas Lupin, c'est Patrice Belval. Et Les Dents du Tigre, qui est un excellent roman.
Un roman très complexe.
Mais ce qui est admirable chez Maurice Leblanc, c'est que ces romans très complexes se déroulent quand même assez clairement et aboutissent à des conclusions extrêmement logiques, toujours. Et puis en ce qui concerne L'île aux 30 cercueils, qui est peut-être le plus terrifiant. Et alors là, dans L'île aux 30 cercueils, bien sûr, c'est très marqué par la guerre, puisqu'il place face à face des gentils et le méchant Vorsky, qui est le super Bosch, comme il l'appelle. Arsène Lupin n'apparaît qu'à la fin, à l'extrême fin du roman. Et donc il y a un changement considérable. Moi d'ailleurs, quand j'ai commencé à lire Les Aventures d'Arsène Lupin, qui était disponible dans le livre de poche, j'ai d'ailleurs d'abord cru que Maurice Leblanc recouvrait plusieurs personnages, plusieurs écrivains, qui avaient tout un atelier qui avait et qu'il a vu des nègres en quelque sorte. Tellement, si on lit L'île aux 30 cercueils, récit étouffant, après avoir lu Les Bicous d'horloge qui sont pleines de joie de vivre, on se dit, mais c'est pas du tout le même personnage. En fait, oui, c'est le même personnage, mais à des époques extrêmement différentes. Et puis après la guerre, Maurice Leblanc retrouve. Après la guerre de 14, il retrouve une inspiration moins tragique. Mais moi, ce que j'admire chez lui, c'est que ce personnage ait pu inventer des histoires aussi bien construites, alors que c'était quelqu'un qui était très tourmenté par la guerre.
Jacques Deroy, en 1924, Maurice Leblanc renoue, si j'ose dire, avec ses premières amours, puisqu'on retrouve le personnage de la comtesse de Cagliostro.
La comtesse de Cagliostro apparaît en 1924 et apparaîtra plus tard. Alors, la comtesse de Cagliostro, c'est un roman qui nous fait renouer avec les premières amours, si on peut dire, dans la mesure où c'est une histoire qui raconte une histoire de jeunesse. Arsène Lupin a 19 ans. Il est encore tout jeune. Il est encore assez inexpérimenté, il faut bien le dire, il tombe sous la coupe de cette comtesse de Cagliostro, qui est quelqu'un d'extrêmement diabolique. Le génie de ce roman, la comtesse de Cagliostro, il faut bien le dire, c'est la façon dont, comme l'aiguille creuse, Maurice Leblanc relie la réalité géographique et historique à une aventure actuelle, puisque la solution de l'énigme repose sur le fait que, si on relie entre elles par un trait les différentes abbayes du Pays de Caux, on s'aperçoit que ça dessine La grande ours dans le ciel. C'est extraordinaire, cette imagination de Maurice Leblanc. C'est vrai que c'est un roman qui se présente un petit peu pour lui comme un album de souvenirs, dans la mesure où tous les lieux qui lui étaient chers sont évoqués. Jumièges, le château de Guerre, Tancarville et son vieux phare. C'était pas un grand voyageur, comme son Arsène Lupin d'ailleurs. Et dans les années 20 et 30, c'est quelqu'un dont les habitudes sont très régulières, qui est à Paris pour les mondanités qui ont lieu en mai et juin, qui part ensuite pour la Normandie et qui passe 2 mois d'hiver à Nice ou à Cannes.
Salut, petit malfaiteur! Je téléphone! Au revoir, ma jolie!
Oui, alors il suffit de regarder les différentes adresses d'Arsène Lupin pour voir que d'abord, il y a une géographie parisienne qui est vraiment celle des beaux quartiers. Hein. C'est 7e, 8e, 17e, 16e. Tout regarde vers l'ouest, quoi. Et il faudrait y ajouter encore Neuilly et un peu plus loin. Donc, c'est un gentleman cambrioleur, mais il collectionne autant les adresses que les identités. Par exemple, il a eu un appartement au 143 bis rue de Rivoli, dans le premier arrondissement, sous le nom de Monsieur Lecoq, qui est un clin d'œil à Gaboriau, évidemment. Mmh. 143 bis. Le 143 bis n'existe pas. Procédé qui nous fait basculer, là encore, dans l'imaginaire. Il y a bien 143 rue de Rivoli. Mais il suffit d'ajouter un petit bis pour tout de suite tomber dans la fiction et se poser la question, chercher sur place où se trouve ce petit bis. 34 bis rue de l'Université. Sous le nom du duc de Charmeras, dans les Dents du Tigre. Là, le bis existe véritablement. Comme quoi, il ne faut pas se laisser aller dans ce petit indice de l'imaginaire qu'est le bis. Et bien, de temps en temps, il est réel.
Pour vérifier les infos.
Place du Palais Bourbon, 7e arrondissement, il possède un hôtel particulier, sous le nom de Don Luis Perena. 63, quai Voltaire, un appartement à l'entresol. Le 63, quai Voltaire, n'existe pas. 16 rue Marbeuf, dans le 8e arrondissement, sous le nom d'Étienne de Vaudrex, dans l'Aiguille Creuse. Rue Laborde, c'est là que se trouve l'agence Barnett et Compagnie, à côté de, entre la gare Saint-Lazare et Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement. Agence Barnett et Compagnie, ouverte de 2 à 3 heures, renseignements gratuits. La prison de la Santé, on l'avait oublié, il ne faut pas, 42 rue de la Santé. Ces séjours ont été le plus souvent très très écourtés pour cause d'évasion. 40 rue Chalgrin, dans le 16e arrondissement, qui n'existe pas non plus, et qui est un de ces immeubles qui a été trafiqué. Un petit hôtel particulier à l'angle de la rue de la Faisanderie et de la rue du Frénois, dans le 16e arrondissement. Un rez-de-chaussée à l'angle du boulevard Haussmann et de la rue de Courcelles, on est toujours dans les beaux quartiers, sous le nom du prince Cernine. Boulevard Haussmann, dans le 17e, sous le nom de Rénine, ce qu'on appelle vraiment des paronymes, des noms à la Lupin, Cernine, Rénine, ça c'est dans la Dame à l'âge, et à Neuilly, 95 rue Charles Lafitte, où il possède un garde-meuble qui sert de dépôt de marchandises volées dans le bouchon de cristal. Il a donné d'ailleurs Maurice Leblanc quelquefois des adresses qui étaient les siennes. Il y en a une, notamment. Voilà aussi un moyen d'être entre le réel et l'imaginaire de façon magnifique. Hein. C'est 8 rue Crevaux.
Ah oui, dans le 16e.
Dans le 16e arrondissement, Maurice Leblanc habitait là. Et dans cet épisode-là, il donne le numéro de téléphone d'Arsène Lupin. Alors, je pense que c'est l'un des tout premiers. D'ailleurs, dans toutes les histoires, il y a 2 numéros de téléphone qui sont donnés par Maurice Leblanc.
Probablement une mauvaise nouvelle. On n'apprend que ça, moi.
La 2e brigade vient d'être alertée, monsieur le préfet. Un vol de tableau moderne chez le vicomte Delroux. 12 toiles enlevées. Et voilà ce qu'on a trouvé épinglé sur le mur.
Presque chacune de ces aventures est liée à une femme. Celle qui a compté le plus pour lui dans sa naissance véritablement, Arsène Lupin, c'est, disait Joséphine Balisambo, la comtesse de Cagliostro.
Il y a l'ingénue comme la demoiselle aux yeux verts, Aurélie. Il y a la femme fatale comme Dolores Kesselbach. Il y a la demoiselle aux yeux verts qui est un personnage, moi, que j'aime beaucoup.
Pourquoi ?
Je sais pas, elle est séduisante. Elle a un peu l'innocence. Je l'ai lu quand j'avais le même âge qu'elle, alors ça me plaisait assez.
Évidemment, il doit nécessairement, lui, abandonner les femmes pour pouvoir avoir de nouvelles aventures. Sinon, il irait s'établir, se marierait. On voit mal ce côté un peu donjon, non, s'installer. Et il y en a qui finissent tragiquement. Oui, oui.
Parce qu'il y a certains livres qui ne sont pas les plus connus, comme La femme aux deux sourires, par exemple.
Elles se partagent, au fond, ces femmes ont peut-être deux grandes catégories. Il y a les innocentes... souvent blonde, fragile, auxquelles il apporte son secours, et quelques diaboliques qui sont effectivement des personnages fascinants, comme Dolores Kesselbach, dans 813, qui s'appelle pour son mari Laetitia. Laetitia Dolores, une femme double. Bon, il y en a d'autres, il y a la Cagliostro, évidemment, il y en a d'autres, la dame à la hache, dans les 8 coups de l'horloge. Ce sont des personnages fascinants, auxquels il s'attache, contre lesquels il lutte, et qui représente une part du mal fondamental, qui est aussi une part de Lupin. Il le dit, le bien et le mal m'attirent. Mais avec la comtesse de Cagliostro, il y a de très belles pages de ce point de vue, on voit le talent de Maurice Leblanc, et puis parce que c'est une histoire violente. Il en est en partie victime, elle se vengera très très cruellement, hein. Mais il est fasciné par elle, il l'aime aussi. C'est pour ça que c'est une histoire forte, parce qu'il y a des éléments d'ambivalence quoi, dans leur rapport. Ce qui en fait la profondeur et la beauté.
Et puis c'est une femme à secret, le secret de sa beauté, le secret de son éternelle jeunesse.
Oui, qui est une mystification, hein, là aussi.
Et son nom renvoie là aussi à la tradition
à
de Dumas,
voilà. Oui.
Voilà,
oui.
À Joseph Balsamo,
bien sûr.
Le comte de Cagliostro, l'affaire du collier de la reine.
La magie, vous savez, c'est le triomphe de l'accessoire.
Une chance unique pour les actrices débutantes.
Quelqu'un a dû forcer la serrure.
Le producteur de Caroline Chéri recherche une inconnue pour le principal rôle de jeune fille du film Arsène Lupin. Si vous avez entre 16 et 24 ans, demandez dès aujourd'hui une audition.
Eh bien, la visite est presque terminée. Nous allons maintenant nous diriger vers la sortie et emprunter un escalier qui est décoré avec des affiches de cinéma où on retrouve les différents acteurs qui ont personnifié Arsène Lupin. On évoque par exemple Arsène Lupin contre Arsène Lupin avec Jean-Claude Brialy et Jean-Pierre Cassel.
Qui était en noir et blanc.
C'est un film d'Edouard Molinaro. On retrouve également signé Arsène Lupin avec Robert Lamoureux qui a été un excellent Lupin, une mise en scène d'Yves Robert.
Qui était un film en couleur absolument délicieux, qui était justement l'histoire du Kaiser Guillaume II. Et ça, c'était un des meilleurs films qui a été fait sur Arsène Lupin.
John Barrymore, les frères Barrymore, avec Arsène Lupin, tiré de l'œuvre de Maurice Leblanc et Francis de Croisset. Et puis, vous voyez les évocations des différentes mises en scène qui ont été effectuées par les uns et les autres.
Et d'autres séries télévisées, alors, avec Jean-Claude Brialy, qui était 813. Il y a eu François Dunoyer, qui a fait des épisodes à la télévision, qui était un personnage que j'avais assez aimé parce qu'il avait un côté bondissant et escaladeur de murs et de balcons. Qui était assez séduisant, puis il était bel homme, il était bien. Mais celui qui a marqué le plus, c'est Georges Descrières, c'est certain.
Là, tout à l'heure, j'ai rencontré un de mes amis, il s'appelle Alain. Et alors, il m'a dit, ce soir, tu regardes Arsène Lupin? Alors, je lui ai dit, bien sûr.
Florence Leblanc, j'aimerais qu'on parle du rayonnement de l'œuvre de votre grand-père à travers les aventures d'Arsène Lupin et de tout ce mouvement de traduction, d'adaptation qui s'en est suivi.
Alors, il y a eu beaucoup d'adaptations et effectivement de traductions dans différents pays, une bonne trentaine. Actuellement, au Japon, alors là, ils sont fanatiques du personnage à tel point qu'ils ont tout piraté. Ils ont fait une dynastie de Lupin. Ils l'appellent Lupin 3, des BD Lupin 3, Lupin 8. Des dessins animés, il y en a eu 102 qui ont été faits.
Et ça ressemblait encore à du Lupin ?
Oh, ben, c'était un petit bonhomme, genre Tintin, assis sur une fusée avec une ceinture marquée AL. Alors, il cambriolait, il laissait sa carte de visite marquée à Arsène Lupin, dans le fond. Alors, pour finir, on a fait un accord et c'est sorti à la télévision française sous le nom d'Edgar. Edgar de la Cambriole. Ça a été diffusé à la télévision française sous ce nom. Et tout ce qui avait trait à Arsène Lupin a été supprimé.
Vous n'en faites pas là où on l'a expédié, il n'embêtera plus personne.
C'est quoi ça?
Vas-y, lis-moi la carte.
Mon très cher Luciano, je suis bien décidé à récupérer tout l'argent que tu as extorqué aux Cubains.
Arsène Lupin. Tu sais qui c'est?
Non, j'en ai aucune idée.
Moi non plus, patron. Vas-y, ouvre le paquet.
Et chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, je le mets dans ce petit machin-là. Vous voyez?
Et le dernier.
Oh, ben là, c'est quelqu'un qui va en faire
Maurice
ça.
Leblanc, cadeau, ou,
que j'avais ouais, déjà. Oh. Et puis, de temps en temps, je fais du rangement. Vous voyez tous ces dossiers dans lesquels je classe. Alors, c'est par ordre alphabétique, un dossier sur l'aiguille creuse, enfin, sur chaque. Voilà. Et puis ici, évidemment, des choses plus qui prennent plus de place, des extraits de journaux, notamment là, vous avez l'Auto, qui fut un journal bien connu.
L'Auto pour lequel il écrira des comptes.
Il a écrit des comptes.
Des formes très brèves, très courtes.
Ça date.
Très sarcastique. Bah,
oui, il a écrit surtout plutôt que ça dans l'Auto. Donc là, j'ai mis des documents un peu grands, la fiche du film que vous connaissez.
Ah oui, avec Romain Duris.
Oui. Et puis, le journal. Où... Alors là, j'ai toute une collection de journaux, vous voyez. Il y en a des tas. Donc là, j'ai un certain nombre de choses, de coupures de presse, surtout de... Le journal de la femme dans lequel on faisait de la publicité pour Maurice Leblanc.
Ah oui.
Ouais.
Ah. Ça date de quand, ça?
Ça date des années 30, je pense. Ah oui. On y fait de la publicité, notamment pour les derniers ouvrages de Maurice Leblanc, qui étaient un petit peu olé olé.
Samedi 12 mai 1934, prix 1 franc. Ah oui, vous parlez des nouvelles sensuelles.
Oui, Maurice voilà, Leblanc. Tout à fait. Ouais. Sans quoi il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus... Oh. Alors, ce qui est très amusant, c'est que l'illustrateur des aventures, dont je sais tout, a reproduit fidèlement les traits de Maurice Leblanc.
Mais oui.
Et si vous voyez la chaise, c'est celle-là.
Non.
Bah, puisque je vous le dis, regardez bien, c'est exactement celle-là.
Incroyable.
C'était Une vie, une œuvre, Maurice Leblanc, 1864-1941, par François Connac. Avec Florence Leblanc, Pierre-Antoine Dumarquet, Patrick Gueule, Jacques Deroir, Jean-Francis Boeuf et Didier Blonde. Lecture par Georges Clès. Et les voix de Georges Descrières, Jean-Claude Brielli, Jean-Pierre Cassel et Jean Le Poulain. Archivina, Marie Jarros. Remerciements à la bibliothèque et la discothèque de Radio France. Prise de son et mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Ghislaine David.
À la fin de sa vie, vous savez, Maurice Leblanc avait demandé la protection de la police à Étretat parce qu'il y avait un certain Arsène Lupin qui le harcelait constamment, donc lui-même s'était mis à croire à l'existence réelle de ce personnage.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui à Maurice Leblanc. Réécoute, podcast, commentaires et compléments sur franceculture.fr, Facebook et Twitter. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, à l'occasion de la sortie au cinéma du troisième volet des aventures du Hobbit Bilbon Sacquet, J.R.R. Tolkien. Et tout de suite, sur France Culture, c'est Le Temps des écrivains de Christophe Onodibio.